Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. J'ai discuté avec Aymeric Grange, cofondateur de 900Care, les produits d'hygiène beauté à recharger. Créée en juillet 2019, la société est encore jeune, mais Aymeric vous le racontera, ses deux premières années furent intenses. La start-up détient le record de la campagne hygiène beauté la plus financée en France sur Ulule et sur KissKissBankBank, avec plus de 100 000 préventes et plus de 12 000 contributeurs. Outre le crowdfunding et la vente en ligne, leurs produits sont également disponibles dans plus de 135 monoprix en France. Et enfin, pour accélérer le développement de leurs produits, 900Care a levé 10 millions d'euros en juin dernier. Dans ce 48e épisode, Aymeric vous raconte notamment son parcours avant d'entreprendre, ce qui l'a amené à créer 900Care et l'importance de monter une entreprise à impact. De l'idée à la fabrication, comment les produits 900Care ont-ils été fabriqués puis commercialisés ? Comment ont-ils battu des records sur Ulule et KissKissBankBank, toutes les grandes étapes jusqu'à aujourd'hui, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre. À la suite de cet épisode, vous pourrez remplacer une partie des produits jetables de votre salle de bain par du réutilisable. Merci Aymeric pour cet échange particulièrement intéressant. Nous on se retrouve lundi prochain, même heure, même plateforme, pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer, c'est important, de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur avec le tiré du bas à la fin. Moi je vous souhaite une très bonne écoute. On va commencer par ton parcours. Dans quel environnement as-tu grandi ?
Écoute, moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Donc, c'est un truc qui est assez intéressant. Et je pense que c'est un truc qui m'a longtemps bloqué pour me lancer parce que je n'avais pas d'exemple de modèle de réussite entrepreneuriale dans mon cercle proche. Donc, moi, mes deux parents sont médecins. Donc, bon, je viens quand même d'un milieu où j'ai eu une super éducation, mes parents sont curieux de plein de choses, mais c'est vrai qu'ils ne viennent pas du tout de ce monde de l'entrepreneuriat. Et moi, j'y suis arrivé un petit peu par hasard au départ. J'étais plutôt un bon élève à l'école, donc j'ai fait un peu le truc que font les bons élèves, ils vont faire une prépa. Ensuite, j'ai intégré HEC, après j'ai rejoint une boîte qui s'appelle le BCG, qui est une boîte de conseil. Et je pense qu'en fait, là, tout le long de ce chemin-là, ce qui m'a guidé en premier, c'était la curiosité. C'est à chaque fois, en fait, faire une prépa HEC, ce qui était intéressant par rapport à une prépa, scientifique, c'est t'as des sciences humaines, t'as de la philo, t'as de l'histoire. Donc, ça, c'était un truc qui était hyper important pour moi. Et c'était un peu la même chose dans la décision de partir en conseil, c'était de se dire, je vais voir plein de boîtes, plein d'industries, c'est hyper, ça change tout le temps, c'est hyper, hyper stimulant. Et pendant longtemps, du coup, vu que j'avais pas vraiment de modèle de gens qui s'étaient lancés dans une aventure entrepreneuriale dans cercle proche, j'ai longtemps hésité à me lancer. Et le déclic, il est venu. Au BCG, j'ai travaillé d'abord à Paris, mais ensuite j'ai travaillé à New York pendant longtemps. Là-bas, j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle Thomas Brégard, qui a un parcours assez sympa puisqu'il vient d'une grande famille entrepreneuriale qui avait les vêtements techniques Bragard, qui sont en gros les vêtements que portent tous les chefs. Et donc, il bossait là-bas en conseil, lui aussi, dans une autre boîte. Et il a décidé de rentrer en France pour relancer un peu l'entreprise familiale. Et il m'a dit, au moment où j'entrais en France, mais tu sais quoi, je sens que tu as envie de te lancer, donc viens, on monte un truc ensemble. Et en fait, la première boîte qu'on a montée, j'ai pris 3 mois off en rentrant des États-Unis pour monter une boîte de casquettes made in Europe avec lui. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment génial ce truc, j'ai adoré. J'ai dû reprendre le BCG quand même quelques mois parce que on était en train avec ma femme de rentrer en France, donc j'avais besoin d'avoir un CDI pour juste louer un appart, etc. Mais en fait, au bout de 2 mois, j'ai donné ma dème. Et là, je me suis mis à réfléchir à un projet parce que les casquettes, l'avantage, c'était que c'était un projet que je savais que je pouvais lancer rapidement mais c'était pas un projet, je me disais, je vais changer la face du monde. Et donc là, j'ai vraiment pris le temps de bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et bah voilà, le truc qui me passionnait depuis longtemps, c'est les produits de grande consommation. Donc c'est comment est-ce que tu prends un de ces marchés qui est gigantesque, qui n'a pas bougé depuis longtemps, et comment est-ce que tu réinventes? C'est comme ça qu'on est arrivé à 900K.
Ok, super, super intéressant. Pourquoi ce nom 900K d'ailleurs?
900K, en fait, c'est un nom qui vient des 900 secondes, 15 minutes, c'est le temps que tu passes chaque matin et chaque soir dans ta salle de bain. Et nous, l'idée, c'est vraiment que ça devienne un moment qui compte. Donc, un moment où tu vas prendre soin de toi, d'abord, parce que c'est hyper important, c'est des produits d'hygiène, donc c'est des produits qui sont très sains, naturels, qui sont aussi ultra sensoriels, ultra agréables à utiliser, et que tu prennes soin de la planète, puisque avec le système de recharge, tu achètes un flacon réutilisable que tu gardes, et ensuite tu l'alimentes avec des recharges qui sont emballées dans du carton. Ce qui fait que tu arrêtes de jeter du plastique. Et en fait, c'est vraiment 900K, enfin, cette petite anecdote des 15 minutes, ça illustre vraiment ce que tu disais en intro. On n'a qu'une philosophie, vous faire aimer l'écologie. Nous, on a vraiment envie d'être une écologie des solutions, une écologie très positive en disant, on va d'abord vous donner envie d'utiliser ces produits parce que c'est vrai que l'écologie, c'est un peu, parfois un peu anxiogène, ça fait peur, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On s'est dit, comment est-ce que nous, on crée la solution la plus simple et la plus agréable pour passer à un mode de vie un peu plus écolo dans sa salle de bain?
La société, elle est très jeune, puisque vous avez été créé en 2019, mais j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Moi, ce qui m'intéresse pour commencer, c'est comment est-ce que vous avez créé vos produits, c'est-à-dire de l'idée justement à la fabrication et jusqu'à la commercialisation de ces produits.
Ouais, c'était un sacré chemin c'est marrant que tu dis ça parce que là on a fait pour la première fois notre premier séminaire d'équipe et donc on a pu faire une petite rétrospective et on leur disait en gros que notre ignorance du marché c'était une bénédiction parce que si on savait à quel point ça allait être dur peut-être qu'on aurait réfléchi un peu plus avant de se lancer. Donc juste pour prendre les choses dans l'ordre c'est une boîte que je monte avec un autre Thomas, donc pas Thomas Bragard, mais Thomas Arnaudot, qui est un de mes amis de prépa, qui lui a pour le coup vraiment un profil de serial entrepreneur. C'est peut-être lui que tu aurais dû avoir sur le podcast. Il a monté plein de
Plus
boîtes
tard, plus tard.
avant. Voilà. Et 900K, du coup, c'est sa troisième boîte. Avant, il avait monté une boîte qui s'appelle 5 à sec. Pas 5 à sec, pardon, qui s'appelle Soyez BCBG, mais qui a été vendue à 5 à sec.
OK.
Et du coup, il est en quête d'une nouvelle aventure entrepreneuriale. La réflexion autour de l'idée, on savait qu'on voulait faire trois choses. La première, c'est qu'on voulait monter une boîte à mission et à impact. C'était hyper important pour nous, on est tous les deux hyper sensibles à cette cause de l'écologie. Puis moi, ce que j'essaie d'insuffler à mes équipes, c'est de dire, historiquement, tous les talents, ils allaient vendre de la pub sur Facebook. En fait, c'est pas mal si on commence à se dire que les gens qui sont talentueux, ils ont envie de faire des boîtes pour changer le... Enfin, essayer de changer le monde, c'est un peu grandiloquent, mais en tout cas, des boîtes qui ont envie d'avoir un impact. Et c'est vrai que moi, ça me désespère un peu quand je vois tous mes potes qui sont hyper smart autour de moi et qui bossent pour des boîtes qui finalement, voilà, sont pas forcément engagées ou quoi. Et donc, c'était un pilier hyper important. Le deuxième pilier qui était important, c'est on s'est dit, on veut pas créer une boîte pour créer une boîte et on veut pas créer des produits qui existent déjà. On veut vraiment être dans l'innovation et apporter un truc en plus. Donc typiquement, tu vois, on se fait beaucoup challenger sur ah mais vous êtes une boîte écolo, pourquoi vous faites pas du savon solide? En fait, on se dit est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle marque de savon solide dans le monde? Je pense pas. Il y a des gens qui aiment le savon solide, c'est génial pour eux, mais ils ont déjà plein d'options. Donc nous, le but c'est pas de créer une énième marque de savon solide. Donc on voulait vraiment avoir ce pilier innovant. Puis après, on voulait avoir aussi un potentiel business, donc potentiel de marché, et puis quelques hacks dans le business model qui font qu'on a un avantage sur les grandes marques historiques. Donc on a pris tout ça et on a commencé à réfléchir à plein de marchés. Il y a un marché sur lequel on avait une affinité un peu naturelle, mais plus en tant que consommateur, c'était l'hygiène. Et on s'est rendu compte d'un truc assez dingue, c'est que dans un gel douche, la majorité du produit, 90%, c'est de l'eau. Et qu'à cause de l'eau, tu es obligé de transporter ton gel douche dans une bouteille en plastique. Et donc tu avais vraiment ce moment un peu waouh de se dire, mais attends. En fait, quand tu achètes un gel douche, tu achètes de l'eau que tu as déjà chez toi, qui est emballée dans le plastique que tu vas acheter, il y a forcément un moyen de le faire mieux. Et donc, on a commencé à tirer le fil un peu de cette idée, on s'est rendu compte, mais attends, en fait, il y a plein d'avantages, parce que du coup, une fois que tu as dit ça, tu te dis, ok, les ingrédients actifs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les compacter et ensuite juste rajouter l'eau chez toi? Et bah, une fois que tu as fait ça, tu as un produit qui est du coup 10 fois plus léger, qui prend 10 fois moins de place, donc en fait beaucoup plus adapté au e-commerce. Et tu te dis, bah ouais, c'était un marché qui historiquement était très peu pénétré en e-commerce parce que bah, justement l'équation économique ne marchait pas, hein. Ça coûte trop cher d'envoyer un produit qui vaut finalement assez peu. Et donc on s'est dit, il y a un truc de dingue à faire parce que ça va passer dans ta boîte aux lettres, ça va nous coûter pas cher à envoyer. C'est très adapté à des modèles d'abonnement parce que c'est des achats qui sont hyper récurrents auxquels les gens n'ont pas forcément envie d'allouer une grosse part de cerveau. Et donc leur dire, bah, tu choisis ta fréquence et ça arrive et tu n'es jamais en rupture de stock. Et en gros, on a voilà, tiré ce fil et on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire. Après, on a commencé à faire les maths, on s'est dit, bon, bah, si on lance qu'avec le gel douche, ça risque d'être compliqué de faire une boîte rentable. Et en fait, ce principe-là qu'on avait trouvé sur le gel douche, on s'est dit, mais il n'y a pas de raison que tu ne l'appliques pas à tout ce qui a du plastique à usage unique dans ta salle de bain. Et donc derrière, on a commencé à réfléchir à d'autres produits. On s'est dit, ah bah attends, le dentifrice, qu'est-ce qu'on peut faire ? On s'est rendu compte que c'était à peu près la même situation. 30% du mectan, qui est le truc qui empêche la pâte de sécher, 30% d'eau. Donc en fait, bah là encore, tu peux réduire de quasiment 60% juste garder les ingrédients utiles. On s'est dit, le troisième du trio qui est important, ça va être le déodorant. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc là, voilà, nous, c'est tous les deux utilisateurs du déodorant en stick. On se disait, c'est absurde de jeter des tuiles à chaque fois. On a commencé à réfléchir à des mécanismes pour dire comment est-ce qu'on rend rechargeable. Et au final, on a commencé à avoir une idée assez, tu vois, assez cohérente de ce qu'on voulait faire. Mais maintenant, le truc, c'est que une fois que tu as dit ça, le challenge était quand même assez ambitieux parce que c'était un challenge à la fois de formulation et c'était aussi un challenge de packaging puisqu'on crée des packagings qui sont réutilisables, qui sont plus solides et que tu vas devoir garder longtemps. Et dans certains cas, tu pourrais te dire, c'est pas un choix qu'on a fait, mais tu pourrais te dire, tu peux prendre des packagings standards pour juste ton pot de dentifrice parce que finalement, c'est juste un truc pour stocker des pastilles. En revanche, pour le déo, il fallait vraiment inventer un mécanisme. Et donc, là, on est arrivé dans la phase où on s'est dit, OK, bon, bah, on a une idée. Maintenant, il faut trouver des partenaires pour nous aider à le faire. Et là, c'est vraiment, tu prends ton bâton de pèlerin. C'est assez marrant comme période. Tu vas faire des recherches Google en tapant laboratoire cosmétique. Tu vas parler à tes potes qui connaissent un mec qui a monté un truc. Tu vas aller voir. Et puis, tu as ces rendez-vous avec plein de labos et plein d'industriels qui te regardent avec des grands yeux en mode bah, « Non, en fait, nous, on fait du liquide ou nous, on fait du solide, mais ce truc hybride, on ne sait pas faire, ça ne nous intéresse pas et tout. » Et finalement, on a trouvé un labo qui est Verchart, qui en fait partageait déjà cette mission écologique et cette ambition, qui a été séduit par l'idée, par ce diagnostic de dire « En effet, c'est absurde de transporter de l'eau. » Et qui s'est dit, bah, allez, bingo, on y va, et on teste avec vous, on a envie de prendre ce pari, parce qu'on pense que ça peut vraiment devenir le futur de l'industrie. Et donc, bah, c'est vraiment un coup de chance, hein. On en a vu peut-être 20, il y en a un qui a accepté. Mais bon, enfin, c'est un peu la leçon, c'est, faut continuer si on rentre pas par la porte, faut rentrer par la fenêtre.
Et bien sûr.
Continuer à insister, puis à la fin, il y a quelqu'un qui y croit. Donc là, en fait, du coup, la timeline initiale, donc, comme tu as dit, on a créé la boîte en juillet 2019. On s'est dit, voilà, on fait le truc. Franchement, on lance nos premiers produits, campagne de crowdfunding à Noël ou en début janvier 2020, quoi. En fait, ça a pris quasiment un an de plus. Donc, beaucoup de péripéties parce que le développement, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que tu peux imaginer au départ. En gros, dans un monde idéal, ça prend 3 mois, mais en fait, on faisait un truc qui était tellement nouveau que c'était complètement impossible. On partait d'une feuille blanche. Encore une fois, c'était des trucs où, comme tout le monde avait un peu ce biais d'optimisme, on se disait, allez, on y va, machin, dans 6 mois, on a un truc. Et en fait, ça a pris 3 fois plus de temps, mais si on n'avait pas été aussi optimiste au départ, on aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant de se lancer. Donc, je pense qu'au final, c'était très, 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 très positif. Après, donc, on a commencé à avoir des premiers produits au bout d'un moment qui commençaient à nous satisfaire. Donc là, on a fait un truc qui était hyper important pour nous, c'était de se dire, en fait, ces produits, on les fait pas pour se faire plaisir, on les fait pour répondre à des vraies problématiques de gens. Et donc, on a fait énormément d'échantillonnage, truc tout con. On a mis des pubs sur Facebook en disant, bah, est-ce que quelqu'un a envie de tester gratuitement notre dentifrice à croquer, notre gel douche, machin. Nous, on est ce stade, on veut essentiellement avoir des feedbacks et des retours clients. Et là, on a eu énormément de demandes et on s'est dit, mais en fait, c'est génial parce qu'on est en train de se créer une communauté. On a envoyé des premières versions qui n'étaient pas forcément dingues, mais en tout cas, on a eu des retours très clairs sur qu'est-ce qu'il fallait améliorer et on a pu itérer jusqu'au moment où on s'est dit là on a une formule qui est bien, et là on a lancé en juin 2020 une campagne de financement participatif sur Ulule. La R&D était finie, on avait besoin de ressources et de pré-vente pour pouvoir lancer le passage à la prod industrielle, et c'était vraiment là pour nous le vrai début de la marque, quoi. Ouais. Le moment où t'as ton premier client que tu connais pas qui t'achète un truc, c'est quand même assez magique.
Donc un an au final entre le lancement de la société et on va dire le lancement du crowdfunding, quoi.
Voilà, et 6 mois de plus avant les livraisons des premiers produits. Donc vraiment 18 mois bout à bout, sachant que je pense qu'on a vraiment compressé tous les timings au maximum. Mais ouais, c'est juste quand t'innoves comme ça, ça prend un peu de temps.
Ok, et puis en plus un lancement produit en 2020, donc une année quand même particulière. Est-ce que ça vous a impacté justement cette pandémie ?
En fait, je pense que ça nous a impacté positivement pour le coup, à deux titres. Le premier, c'est que je pense que bon, il y a un truc qui est évident, c'est que les gens commençaient à plus faire leurs courses en ligne puisqu'ils avaient plus peur d'aller en magasin. Donc forcément, quand tu lances un business en ligne, bon bah tu bénéficies un peu de cette vague. Mais au-delà de ça, je pense que le Covid, c'est vraiment quelque chose qui a interrogé les gens sur les modes de consommation, sur les bienfaits de la mondialisation, sur comment est-ce qu'on redonne un petit peu de sens. Enfin, je pense que ça a été vraiment un moment d'introspection pour pas mal de monde et qui a poussé aussi pas mal de monde à remettre un peu en question certaines habitudes, certains trucs, et à se dire comment est-ce que moi, je peux avoir un impact un peu moins néfaste sur la planète. Et donc, je pense que ça, c'est l'autre truc qui nous a beaucoup porté, en fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très angoissant. Et d'ailleurs, on a décalé le lancement parce qu'on voulait pas le faire en plein Covid. Donc, on l'a fait au moment du déconfinement. Mais c'est vrai que c'était vraiment un truc où, avant de lancer ton crowdfunding, tu peux pas savoir comment ça va se passer. Et c'est vrai que c'était assez stressant pour nous. On disait, putain, on a bossé si dur pendant tout ce temps pour se taper une crise sanitaire. Le timing est affreux et en fait, finalement, tout s'est bien passé. Donc, c'était plutôt chouette.
On revient justement à cette campagne de crowdfunding. Comment ça s'est passé du coup ? Comment est-ce que tu l'as vécu et est-ce que vous avez eu les résultats auxquels vous vous attendiez ?
Alors, en fait, le crowdfunding. Enfin, déjà, on était, nous, très ambitieux depuis le départ. Et c'est un truc qui est important pour nous, c'est le combo ambition et mission. En gros, on se dit que sans notre mission, avoir de l'ambition, ça n'a pas tellement de sens parce que, enfin, on pense pas que le monde ait besoin d'une nouvelle marque d'hygiène. Donc, sans ce fort ADN de dire on va faire les choses différemment, on va arrêter de jeter du plastique, ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, sans ton ambition, en fait, ta mission, elle a zéro impact. C'est-à-dire que s'il y a 3 personnes qui utilisent tes produits, avoir les produits les plus écolos du monde, en fait, tu ne feras pas bouger la balance. Et donc, depuis le début, on avait cette ambition et nous, on s'était fixé le challenge en interne. On se disait, ce serait cool qu'on devienne la campagne hygiène beauté la plus financée sur la plateforme qu'on avait choisie au départ qui était Ulule. Mais on savait que ça allait être hyper dur parce qu'il y avait plein de marques super, qui avaient hyper bien marché sur cette plateforme. Donc, c'était un peu, ça, c'est toujours le truc, tu dis vise la lune et comme ça tu arriveras un peu plus bas, mais voilà. Et en fait on a été hyper surpris par l'engouement. On a été porté déjà par tous les bêta-testeurs qui avaient énormément apprécié la démarche, qui avaient vu l'amélioration des produits au fil du temps et qui s'étaient dit même si c'est pas parfait, en fait je sais que c'est une marque qui a avec qui j'ai créé une relation et qui m'écoute, et je sais que si je les soutiens, ils vont continuer à s'améliorer. Et donc ça nous a donné un boost de notoriété hyper fort. Et après, il y a eu un vrai bouche à oreille qui a joué à plein. On a fait une vidéo qui a très bien marché et qui a été vue des centaines de milliers de fois ou des millions de fois sur les réseaux sociaux. Et donc, on finit Ulule et on bat le record de la campagne hygiène beauté la plus financée en France qu'on a eue. Sur Ulule, je crois plus de 5500 clients. On a vendu, je dis pas de bêtises, mais quelque chose comme 50 000 produits. Enfin, vraiment un truc assez dingue. Et là, on arrive au moment où on se dit, en fait, nos produits ils sont prêts dans 6 mois, et on reçoit énormément de demandes de gens qui disent, j'ai raté la campagne, machin et tout. Et donc nous, on n'avait pas prévu d'avoir un site. On s'est dit, de toute façon, les produits sont pas là, donc on va pas vendre un truc qui n'existe pas encore. Voilà, on a déjà fait nos précommandes, mais on a eu énormément de demandes, et là, on s'est dit, Ulule, il permettait pas à l'époque, depuis, ils ont changé à cause de nous, mais il permettait pas de faire des extensions de campagne en disant, vous avez pas encore de site internet, donc on laisse votre page ouverte. Et donc, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on va relancer sur une autre plateforme. Donc, on est allé sur KissKissBankBank. Et là, il s'est passé un truc de dingue. C'est qu'on a fait encore mieux sur KissKissBankBank que ce qu'on avait fait sur Ulule. Et donc, en gros, on est arrivé dans ce moment assez dingue où on s'est dit, bah, voilà, sur les campagnes hygiène beauté les plus financées sur les plateformes de crowdfunding en France, bah, il y a 900 quarts de fois sur les deux premières marches. Donc, c'était assez exceptionnel. Comme,
ouais, donc vous
comme
avez cassé le game sur Ulule et sur KissKissBankBank. Donc, c'est solide.
Ouais, c'était vraiment un moment assez exceptionnel. Et c'est là où on s'est dit, ouais, on a raison d'être ambitieux et on peut vraiment faire un truc génial.
Ok, super. Moi, dans 900 quarts, j'aime beaucoup le packaging produit et j'aime beaucoup la manière dont vous communiquez. Comment vous avez réfléchi justement sur ce packaging produit ?
Eh ben, écoute, déjà, merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, déjà, je pense que le fait qu'on ait eu beaucoup de temps de développement, c'était une bénédiction parce que ça nous a permis de vraiment nous poser sur la marque et de réfléchir à qu'est-ce que cette marque elle a envie de raconter, qu'est-ce que on a envie de faire, etc. Et en fait, au début, tu vois, c'est marrant, on montrait à l'équipe là, lors de notre séminaire les premiers visuels. On avait fait un truc qui était un peu, je sais pas si tu connais la marque Aesop ou le labo, mais un peu le labo ou Aesop bio, écolo, machin. Et on se disait, bah, en fait, non, si on fait un truc qui ressemble à tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, bah, les gens ne vont pas le remarquer parce qu'il y a déjà pléthore de marques comme ça. Donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on soit différent. Nous, notre truc, on a une histoire hyper intéressante. On avait un insight client, je pense, qui était hyper puissant, qui était de dire l'écologie, c'est trop moralisateur aujourd'hui, c'est trop anxiogène. Comment est-ce qu'on le rend joyeux et décomplexé? Et on avait cet avantage qui était... Enfin, cette contrainte au départ, mais qui était un avantage, qui était de dire, OK, vu que nous, on veut plus jeter de plastique à usage unique, on va créer des contenants réutilisables qu'on va vendre du coup vide parce qu'on enverra les recharges séparément. Et là, on s'est dit, OK, mais du coup, il y a moyen de réinventer complètement ce que c'est un emballage de produits d'hygiène parce que historiquement, un emballage de produits d'hygiène, c'est un truc qui doit être dans des rayons de supermarché avec un gros logo et des grosses claims pour que tu les repères. Nous, on n'a plus besoin de faire ça. Et donc, bah, on s'est dit, et puis tu as besoin d'avoir toutes les infos légales, les listes d'ingrédients, machin et tout. Nous, on vendait le contenant séparément, donc on s'est dit, bah, en fait, on peut complètement réinventer ce que c'est. Et au lieu que ce soit un objet bah, publicitaire, on s'est dit, bah, c'est un objet qu'on va créer de façon très épurée. On va pas avoir un... Enfin, le branding viendra du design, des couleurs, mais pas d'un gros logo. On n'a pas besoin d'avoir d'étiquette de produit. Et on fait un truc qui est vraiment fait pour durer, avec ses tons très, très colorés, très, très joyeux. Parce qu'on se dit ouais c'est important que tu puisses bah, que ça transpire en fait dans l'ADN de la marque ce côté écologie joyeuse mais ouais c'est ça qui enfin que moi je trouve fascinant dans cette expérience c'est qu'au départ tu pars d'une contrainte qui est de dire arrêtons de jeter du plastique la plupart des marques ils diraient ça va être une galère de dingue et en fait nous en tirant le fil on s'est rendu compte qu'il y avait 1000 avantages et quand tu en fait tu regardes les problèmes un peu différemment, tu te rends compte que tu peux vraiment créer un truc qui est très différenciant et qui apporte un vrai plus et où t'as pas besoin d'avoir de... Enfin voilà, c'est pas un truc en moins, c'est pas moins de plastique, ça veut pas dire une moins bonne expérience et au contraire, moins de plastique, justement, ça nous permet d'avoir une super expérience. Et juste pour finir sur les flacons, parce qu'on a parlé tout à l'heure du labo, donc là, pareil, on a pas mal galéré pour trouver... En plus, on voulait absolument faire produire en France, c'était hyper important pour nous par rapport à notre démarche. Aujourd'hui, bah, le plastique pas cher, hein, c'est bien évidemment en Asie du Sud-Est. Et donc, on s'est retrouvé à faire des meetings avec bah, des gens dans la région d'Oyonnax, au nord de Lyon, entre Lyon et Besançon, qui est historiquement la Plastic Valley. Et on s'est rendu compte que leurs clients, c'était Chanel, LVMH, enfin voilà. C'était tous les gens qui pouvaient se permettre de payer leurs flacons un peu cher. Et nous, parce qu'on s'est dit, bah, c'est un flacon réutilisable, donc on va pouvoir le vendre, parce qu'on veut aussi qu'il y ait une perception de valeur. Voilà, c'est un flacon qui est, il y a plus de matière, parce qu'il faut qu'il dure longtemps, c'est du plastique recyclé, donc ça coûte plus cher, c'est fait en France, ça coûte plus cher, mais on peut se permettre de le faire, parce que nous, notre flacon, il est là pour durer. Et donc, ouais, non, c'est un truc assez, je pense, assez différenciant, et ça contribue... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles la campagne a aussi bien marché, à mon avis. C'est que quand les gens voyaient le flacon, ils se disaient... Après, il y a des gens quand même qui n'aiment pas. C'est des choix de design qui sont assez marqués, mais au moins, ça ne laissait pas indifférent et ça interpellait. Et les gens avaient envie de comprendre ce que c'était, ce truc, cet ovni, quoi.
Ok, super. Donc, quand on achète du 900K, on achète un peu du Chanel. C'est ça que tu as voulu me dire.
Exactement. Exactement.
Pour revenir un peu à la timeline, ensuite, la fameuse livraison des produits, le respect des commandes, comment ça s'est passé? Est-ce que tout s'est passé comme vous l'avez souhaité?
Alors, bien évidemment que non, hein. Ça, je pense que c'est la caractéristique du crowdfunding, c'est que ça se passe jamais comme tu prévois que ça se passe. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais donné récemment un petit cours, une petite conférence pour dire mes tips de crowdfunding, et je disais aux gens, si vous voulez vous lancer, en fait, prenez votre timeline que vous avez imaginé et rajoutez 3 mois sur la livraison, parce que c'est le temps de retard que vous allez prendre. Et nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que passer du labo à une production industrielle, c'est pas aussi facile que ce qu'on pouvait imaginer. Et on a notamment une maxi galère, donc on avait tout fini, machin. Enfin, on était prêt, on avait commandé toutes les matières premières, et on lance la prod et on se rend compte qu'en fait la machine elle pète et qu'on va prendre 2 semaines de délai. Donc vraiment un gros coup de stress. En plus, c'était juste avant Noël, donc il y avait des gens qui voulaient bien sûr des cadeaux de Noël, enfin qui avaient prévu de l'offrir en cadeau de Noël. Donc ça posait tout un tas de problèmes. Et là, en fait, on a pris une décision assez forte qui était de dire on va communiquer de manière très transparente. Et on est allé, on a pris une photo de la machine qui était cassée, on a raconté dans le newsletter qu'est-ce qui s'était passé. Et ça a complètement inversé la dynamique des gens qui commençaient à se plaindre en mode, bon, bah voilà, ça fait déjà 3 mois qu'on vous a donné de l'argent, où ça en est, est-ce que c'est une arnaque ou pas, à, en fait, des messages de soutien en mode, bah, vous inquiétez pas, on peut attendre 2 mois de plus, il n'y a pas de problème, etc. Donc ça, c'était la première grosse galère sur la production des formules. Deuxième grosse galère, c'est on s'est rendu compte que le design qu'on avait imaginé pour notre déo, en fait, fonctionnait pas du tout. En gros, on avait imaginé, tu sais, pour faire monter descendre, une espèce de petit bouton poussoir sur le côté, en se disant bah c'est super, tu vas pouvoir l'utiliser avec une main. Le problème, c'est que ça, on l'avait fait de façon théorique, mais avant d'avoir la formule finale et du déo, et on s'est rendu compte, en fait, au moment où on l'a testé, que avec le jeu des frottements, le bouton poussoir était beaucoup trop dur et que c'est impossible à pousser. Et donc là, on a dû repartir sur... Donc on a pris déjà une décision hyper dure qui était de dire on va quand même livrer les premiers produits et on livrera le déo plus tard. Sachant que, bien évidemment, on avait fait tout notre pricing en pensant que on a vendu énormément de packs 3 produits avec gel douche, dentifrice, déo. Et bien sûr, dans notre pricing, on avait pensé une seule fois les frais d'expédition et pas 2 fois. Donc, quand tu as plusieurs dizaines de milliers de clients à qui tu dois renvoyer 2 commandes ou une, ça te fait un gros sacrifice financier. Donc ça, déjà, c'est pas difficile. Enfin, c'est assez difficile à prendre. Et surtout, on a repris 6 mois de délai parce qu'on a dû changer complètement le mécanisme et créer un mécanisme de molette qui se tourne plutôt qu'un mécanisme qui se pousse avec le doigt. Mais là encore, enfin, je pense que c'est en tout cas moi une grande leçon. On l'a dit de manière complètement transparente. Il y a des gens qui nous ont dit bah c'est abusé, on veut être remboursé, on les a remboursés tout de suite. Et puis il y a plein de gens qui ont dit bah voilà, vous inquiétez pas, on continuera à utiliser un autre déo pendant ce temps-là. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des blagues sur bah ça fait 6 mois que j'ai arrêté de mettre du déo, du coup c'est à cause de vous que j'ai été social. mais voilà. Et franchement, ça si c'est un conseil que je peux donner, c'est que tu parlais de la marque et du ton de la marque. En fait, je pense que le truc qui caractérise le mieux notre marque, c'est humain. Et en fait, être humain, ça veut dire aussi accepter que parfois, bah, tu fais pas tout parfaitement, mais en revanche, que t'as la volonté de t'améliorer et voilà, que tu prends pas les gens pour des imbéciles. Et évidemment, derrière tous les gens qui ont eu des retards de livraison, on leur a donné des codes promo pour les dédommager. Enfin voilà, on a essayé de faire les choses bien pour que les gens sentent que voilà, on les respectait, mais en fait, quand tu fais ça, bah, du coup, t'as beaucoup de respect aussi et tu crées une relation hyper forte avec tes clients, quoi.
Bien sûr. Et par rapport aux petits soucis de fabrication, j'ai l'impression aussi que pas 100% des boîtes qui ont un process industriel, mais presque, il y a toujours à un moment donné, ça se passe pas comme prévu, quoi.
Ouais. C'est très dur. C'est un métier qui est incroyablement dur. Et c'est d'autant plus dur, en fait, quand tu innoves beaucoup. Un autre truc, tu vois, qu'on s'est aperçu pendant la production, c'est que, tu vois, on pensait, typiquement, nous, notre process, la plupart de nos produits, c'est tu prends de la poudre, donc tu mets plein de poudre ensemble que tu mélanges, et que tu vas ensuite compacter. Et c'est ça qui fait les bâtonnets ou les passines qui font ça. Quand on a réfléchi au process industriel, on s'est dit, bah, ce qui est le plus efficace, c'est de faire tout ton mélangeage d'un coup, et ensuite tout ton compactage à la suite. Parce qu'on se dit, bah, comme ça, tu as une journée de compactage, ou deux journées de compactage, et ensuite des journées de production. Et par exemple, un truc tout con, mais on s'est rendu compte que quand tu faisais ça, la poudre prenait un petit peu l'humidité de l'air, et du coup était beaucoup plus dure à compacter, donc on a dû tout changer. Et ça, c'est des trucs, en fait, c'est quasiment impossible à prévoir avant de te lancer. Donc, les processus industriels, en général, c'est dur, et même quand t'as un truc bien rodé, il y a tout le temps des problèmes. Mais quand, en plus, tu pars sur des technos qui sont pas maîtrisées, enfin, qui sont très novatrices, donc, du coup, t'as pas de recul, bah, c'est sûr que tu découvres des trucs en chemin. Mais la beauté de ce qui s'est passé, c'est que, bah, avec toutes ces galères, en fait, on a vraiment développé, c'est plutôt mon associé Thomas qui gère cette partie, mais il était à l'usine, tu vois, toutes les semaines, et du coup, il a une compréhension de dingue de tous nos process. Ce qui, en fait, est assez rare quand tu montes une marque de cosmétiques où, en gros, la plupart des gens, ils prennent des formules qui existent déjà avec des process qui sont déjà bien établis, ils mettent un beau logo dessus et c'est fini et ils n'ont aucune compréhension de qu'est-ce qui se passe dans l'usine et voilà. Et donc, bah, ça nous intéressait aussi beaucoup parce que, bah, déjà, c'est fun d'apprendre des trucs nouveaux et puis surtout, en réfléchissant à plusieurs avec, bah, chacun son expérience un peu différente et sa vision du monde un peu différente, tu te rends compte que tu arrives à craquer des problèmes que apparemment, enfin, qui étaient a priori un peu insolubles.
Ouais, c'est clair. Et du coup, on arrive en 2021. Qu'est-ce qui se passe en ce début d'année?
Bah, 2021, du coup, fin 2020, livraison des produits et surtout lancement du site. Moment assez émouvant parce que c'est la première fois qu'on arrive à réaliser notre vision qui était de vendre de l'abonnement, puisque bien sûr, les plateformes de crowdfunding, c'est super, tu lances vite, il n'y a pas de code, mais bah, c'est limité, tu ne peux pas vendre des systèmes d'abonnement, etc. Donc on a fait un gros taf pour développer notre site, et un peu avec ce truc de dire, bon, bah, on avait un peu parlé aux gens, mais les gens étaient en mode, ouais, je sais pas, l'abonnement, peut-être. Et en fait, on a été vraiment surpris de voir qu'on a plus d'un client sur deux qui s'abonne. Sachant que c'était pas du tout un truc qu'on avait, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Nous, on a fait le choix de pas forcer l'abonnement. Il y a des marques qui choisissent de forcer l'abonnement, mais on pense donc que c'est mieux de laisser le choix aux gens. Et en fait, il n'y a pas eu besoin de les forcer puisqu'ils se sont quand même abonnés. Donc ça, c'était vraiment hyper important. C'était, si tu veux, la dernière. Enfin, nous, on a un business qui est assez simple en ligne. Hein. En gros. Notre business, il tient en trois métriques. Tu as le métrique de combien ça te coûte d'acquérir tes clients. Et donc là, bah, voilà, le crowdfunding, ça a montré qu'on avait une vraie viralité, un vrai bouche à oreille et qu'on avait un vrai avantage là-dessus. Il y avait le métrique de quel est ton panier moyen, donc combien de produits t'achètes tes clients. Et là, on s'est lancé en gamme. Et comme je te disais, notre pack qui a été le plus acheté, c'était les packs, on appelait pack découverte ou pack trio, où il y avait les trois produits. Donc on a validé cette case-là, et la dernière case qui restait à valider, c'était un peu la case de la rétention et du repeat, donc à quel point tes clients vont te racheter. Et en fait, le fait de voir que bah, les clients massivement choisissent l'abonnement, c'était assez bluffant. Donc derrière, ce qui s'est passé, c'est que ça avait commencé un petit peu avant, ça faisait un moment qu'on était en contact avec Monoprix, mais ça s'était accéléré après crowdfunding. Et donc en avril 2021, deuxième gros milestone pour nous, c'est qu'on lance dans 135 magasins Monoprix avec notre meuble en propre, un meuble du coup qui avait qui a la forme de notre flacon de gel douche mais en géant. Et ça, c'est vraiment un moment aussi hyper fort quand tu vas dans le Monoprix chez en bas de chez toi et que tu vois tes produits, et ça te fait un truc quand même de dingue. Et puis ça te fait changer aussi de statut dans la perception des gens, parce que en gros, quand tu dis ouais bah voilà, c'est des produits qu'on peut trouver chez Monoprix, c'est un gage de qualité. On se dit qu'ils font bien les choses et qu'ils sont exigeants sur la sélection. Donc ça nous a aussi, au-delà de Monoprix, ça nous a beaucoup aidé en termes de notoriété. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que moi j'ai depuis le début cette vision de dire que les deux canaux sont hyper complémentaires et que c'est pas possible. Enfin. En tout cas, c'est difficile de vraiment monter un business qui peut être très gros sans en se passant du retail. Et bien sûr, tu as plein de gens qui disent « Ouais, mais attends, le retail, nanana, c'est compliqué, c'est pas le même métier, les marges des retailers, etc. » Mais en fait, nous, on n'a pas du tout réfléchi comme ça. On s'est dit « attends, qu'est-ce qui est pratique pour les gens? Il y a plein de gens qui nous ont dit, moi, ce qui est pratique pour moi, c'est me faire livrer mon dentifrice chez moi avec votre abonnement. Je trouve ça super pratique. Puis il y a plein de gens qui disent, mais non, en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir un autre abonnement, j'ai pas envie d'acheter en ligne ce produit-là. Je veux juste pouvoir le choper quand je vais faire mes courses parce que c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, il y a deux typologies de gens, il faut qu'on les serve bien. Et en fait, il y a finalement très peu de porosité entre les deux. Enfin, une des craintes des gens avant de se lancer en retail, c'est de dire, ah, bah, je vais cannibaliser les ventes de mon site web. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas les mêmes personnes qui t'achètent en ligne et en retail. Et peut-être qu'un jour, ce sera le cas, mais ça voudrait dire que, du coup, on a vraiment atteint voilà, une distribution de masse et ce sera un bon problème à avoir, quoi.
C'est clair, et c'est, ça fait plus de visibilité, puis effectivement tu touches pas les mêmes typologies de personnes et tu t'ouvres potentiellement à d'autres typologies de gens aussi, donc je pense que c'est que du plus, que du bonus d'être distribué dans plus de 135 Monoprix, c'est juste génial quoi. Et il y a quelques mois, vous avez, alors c'est en juin je crois, vous avez levé 10 millions. Est-ce que c'est pour lancer de nouveaux produits, s'ouvrir à d'autres pays peut-être?
Ouais, c'est alors autres pays sans doute pas tout de suite. 10 millions en fait, c'est vraiment pour se dire comment est-ce qu'on arrive à créer un acteur qui est leader sur l'hygiène beauté rechargeable en France et comment est-ce qu'on prouve que le modèle il est scalable. Parce que c'est une chose de faire un très beau crowdfunding et c'est super. Mais c'est pas ça qui fait une boîte viable et on est dans des marchés qui, enfin voilà, qui valent plusieurs milliards et donc bah voilà, il y a moyen de créer une très, enfin juste en France, hein, donc il y a moyen de créer une très grosse boîte déjà en France. Si on voulait voir, enfin l'idée c'est un peu de voir jusqu'à où on peut aller en France, apprendre un maximum de choses en France avant d'aller en Europe. La vision à terme c'est de créer un acteur européen parce qu'on pense que c'est Tino. Il n'y a pas de raison qu'un Italien ou qu'un Allemand n'ait pas envie de l'avoir chez eux, mais on croit aussi au bénéfice d'être focalisé. Donc, à court terme, en gros, cette levée, elle nous permet de faire trois choses. La première, qui est la plus importante, c'est qu'elle nous a permis de recruter des gens hyper talentueux. Bon, avec le jeu des préavis, etc., il y en a pas mal qui sont arrivés là récemment depuis septembre ou même début octobre. Mais on a fait un pari, c'est à ça que ça sert de lever de l'argent, c'est qu'on a recruté des niveaux de seniorité et d'expérience qui sont qu'on n'aurait pas pu se payer tout seul avec le volume d'affaires qu'on fait aujourd'hui, mais qui on est persuadé que les avoir, ça va nous permettre de créer la boîte qui demain pourra se permettre d'avoir ces profils-là sans financement externe. Donc ça, c'était hyper, hyper important. La deuxième chose, c'est continuer à développer notre gamme et continuer à améliorer nos produits. On a une démarche qui est très, très itérative sur le développement produit. On a cette chance que très peu d'acteurs de l'hygiène ont d'avoir un lien direct avec nos consommateurs, ce qui fait qu'on collecte énormément de retours et qu'on est capable d'aller très vite en termes d'innovation et d'amélioration continue de nos produits. Et puis après, bien sûr, élargir la gamme, c'est-à-dire la vision, je te le disais en intro, mais tous les produits qu'on du plastique à usage unique dans ta salle de bain, un jour ce sera un produit 900K. Et donc on bosse, là on a lancé, avec cet argent, on a pu lancer en parallèle plein de développements, en se disant qu'on reste hyper exigeant sur le niveau de qualité, et puis on verra qu'est-ce qui arrive quand. Mais voilà, tout ce qui est dans ta salle de bain, l'idée c'est vraiment de créer l'endroit où tu puisses faire 100% de tes courses d'hygiène beauté. En version rechargeable et sans avoir à jeter de plastique. Et après, la dernière chose qu'on fait, bon après il y a bien sûr tout l'aspect faire connaître les produits, donc investir en communication, investir dans des nouveaux canaux de distribution. Et enfin, le dernier truc qui est hyper important pour nous, c'est tout l'aspect RSE et comment est-ce qu'on crée une boîte qui est vraiment on a des produits qui sont intrinsèquement bons et RSE parce que il y a pas de plastique jeté, parce que nos produits sont beaucoup plus légers, donc en transport ça émet beaucoup moins de CO2. Mais on veut pas juste s'arrêter là, on veut vraiment créer une boîte qui à tous les points de vue soit respectueuse de, plus respectueuse de la planète, des normes sociales, etc. Donc on est en train de lancer plein de démarches, des démarches de mesure du cycle de vie, des démarches d'évaluation de notre empreinte carbone, démarches B Corp pour devenir une boîte certifiée B Corp. Et ça, c'est un dernier pan qui est hyper, hyper important. Parce que la vision, c'est un peu de se dire, on veut faire un géant vert. Donc, dedans, il y a les deux pans. Il y a le pan géant, donc croître et recruter beaucoup de clients. Puis il y a le pan vert où il faut vraiment qu'on soit exemplaire sur tout ce qu'on fait et qu'on cherche à s'améliorer en permanence.
Ok, pour clôturer un peu cette partie 900K et avant de passer à l'autre partie, est-ce que tu pourrais me donner quelques chiffres, quelques stats sur 900K?
Quelques stats, on a les 10 millions dont ça parlait de lever, on a les 135 les 135 magasins Monoprix, et surtout en fait je pense que on communique pas des chiffres exacts, mais on a calculé récemment l'économie de, on s'est amusé à faire cet exercice, l'économie de plastique. Donc c'était plusieurs centaines de milliers de bouteilles plastiques qu'on a évitées, et on s'est amusé avec l'équipe à faire le calcul en termes de, enfin, si on prend ces bouteilles pleines, qu'est-ce que ça représente en poids? Et c'est le poids de 80 hippopotames, je crois. Donc voilà, peut-être que
Ok,
c'est ça
génial.
le chiffre clé, 80 hippopotames.
Ça me va très bien. Ce sera en titre de l'épisode.
Exactement. 80 hippopotames de plastique.
On passe à la partie un peu bilan de cette aventure, même si elle est loin d'être terminée. Au contraire, mais quel a été le moment le plus difficile de cette aventure entrepreneuriale?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on touche du bois, mais on a pour l'instant eu une aventure entrepreneuriale qui s'est bien passée. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire les choses qu'on voulait faire. On a une super relation avec mon associé. Je pense que c'est le truc le plus important. Et on n'a pas eu de gros moments de bad ou de difficultés insurmontables. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est, je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu de gros moments de bad. C'est en partie de la chance. Je pense qu'il y a, voilà, parfois, on peut tomber sur un os. Mais c'est aussi de réfléchir à comment est-ce que tu regardes les difficultés. Et nous, on s'est toujours dit qu'une difficulté, c'était un moment où on allait apprendre plein de trucs. Et on a toujours réussi, en fait, à en sortir grandi. Et quand on a eu des problèmes de production, on a déjà appris plein de trucs sur le process de production, on a appris plein de trucs sur la façon de parler d'un problème à nos clients, et ça nous donne beaucoup de confiance sur la suite, parce qu'on se dit, la prochaine fois qu'on aura une tuile, bien sûr c'est pénible sur le moment, bien sûr que tu as des nuits où tu dors mal, bien sûr où c'est stressant, mais tu te dis, bah en fait je l'ai déjà fait et je vais réussir à le refaire, et en fait il faut vraiment avoir c'est la citation classique de dire, moi je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends un truc. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaie d'insuffler à tout le monde chez nous. Après, maintenant, je pense que la partie la plus dure pour moi de 900K, c'était vraiment, je dirais, les 6 à 9 premiers mois, et peut-être cette période plutôt, tu vois, autour des 6 mois. Donc ça fait 6 mois que tu t'es lancé, que tu n'as aucun produit, que tes formules, elles avancent pas. Que tous tes potes, ils te regardent avec des yeux ronds, hein, quand tu leur dis, bah ouais, je vais faire du dentifrice sans pastille. Ils disent, ah ouais, ok. Que je vais vendre sur Internet avec des abonnements. Bon, ok. Et donc là, c'est vraiment dur parce que tu dois vraiment tenir sur ta force de conviction. Tu penses avoir vu un truc, mais t'as aucune preuve. Et là où c'est peut-être plus dur quand tu lances un produit physique que quand tu lances un SaaS ou quoi, c'est que la démarche MVP, je vais tester mon truc hyper rapidement en 2 semaines. Elle est beaucoup plus compliquée. Il y a des shortcuts, hein. Ce qu'on a fait avec les bêta-testeurs, ça en est un, mais ça nécessite quand même d'avoir un produit qui est à peu près fini. Enfin bref. Donc voilà, il y a vraiment ce moment où c'est pas facile. Et là, je pense que le truc qui était le plus important dans ce moment-là, et que moi je conseille à 100% des gens qui veulent monter une boîte et qui me contactent, c'est d'avoir un cofondateur. Je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent à monter des boîtes tout seuls. J'ai un respect immense pour ces gens-là. Mais honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Et en fait, avoir quelqu'un avec qui discuter, qui te permet, c'est très rare en fait d'être tous les deux down au même moment. Et donc il y en a toujours un qui est là pour booster l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait que, bah, on a tenu, on a serré les dents, et qu'à la fin, ça a payé, quoi.
Ouais, non, non, c'est clair que être à deux dans cette typologie d'aventure, c'est sûr que c'est que du plus, je pense. Ma deuxième question, par rapport à cette partie, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui?
Je pense que, et c'est peut-être, je suis un petit peu influencé par ce retour de séminaire, mais je pense que je suis le plus fier d'avoir constitué l'équipe qu'on a constituée, et de se dire, en fait, donc maintenant on est 23, donc il y a 21 personnes qui ont choisi de nous faire confiance, qui partagent notre vision, qui ont envie de se bouger pour faire changer les choses et pour se dire ouais, il y a une façon de faire des produits d'hygiène d'une meilleure façon. Et ça, c'est une preuve en fait de voilà, de confiance qui est hyper touchante et qui est hyper émouvante. Et quand tu vois ça, tu te dis ouais, en fait, sans moi, bah, ces gens-là, ils seraient pas dans cette pièce, ils seraient pas là autant motivés autour de ça. Et il y a quand même un truc qui bah, qui te donne une fierté de dingue. Et après, bien sûr, évidemment, tous les succès, ça nous rend très fiers. Les retours des clients satisfaits, c'est à chaque fois un immense bonheur. L'impact qu'on peut avoir, c'est aussi une grande source de fierté. Mais au final, tout ça, c'est pas possible si t'as pas, enfin voilà, la base de ça, c'est l'équipe qui va porter tout ça et qui permet d'avoir ses succès, d'avoir ses clients, d'avoir ses retours. Donc ouais, c'est sans doute ça, moi, la plus grande fierté.
Ok, place à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie? Est-ce que tu pourrais m'en citer une ou deux?
Bah, je pense que je t'en ai déjà un petit peu parlé avec l'histoire de Thomas Bragard, mais je pense que c'est en grande partie grâce à lui que j'ai eu le courage de me lancer. Et donc, bah ouais, je dirais que c'est ça la rencontre la plus marquante pour moi, c'est ça. Et après, sinon, bah les autres rencontres, c'est moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire et je lis pas mal de livres business. Et en fait, à chaque fois, tu rencontres un peu des gens à travers les bouquins. Tu vois, la dernière rencontre marquante du coup là-dessus, c'est sans doute le Ben Horowitz qui a écrit un excellent bouquin qui s'appelle What You Do Is Who You Are sur la culture d'entreprise. Et c'est vrai que de dire comment est-ce que tu construis une culture d'entreprise forte et comment est-ce que ta culture d'entreprise elle doit se traduire en actes. Et de se dire, pour moi, j'ai toujours trouvé, je comprends que ce soit compliqué de lire, etc. Mais j'ai toujours un peu de mal quand je rencontre des gens qui lisent rien, parce que tu te dis, bah, c'est une façon incroyable de passer, tu vois, 6 heures en compagnie d'un mec qui est hyper intelligent, qui a réussi à faire des trucs de ouf et qui te balance un peu ses secrets, ses retours d'expérience. Et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper, hyper enrichissant.
Est-ce que tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée? En podcast, notamment.
Une anecdote que j'ai jamais racontée. Oui, j'en ai une. Je vais te raconter mon histoire du rendez-vous investisseur le plus bizarre. Mais je vais pas citer le nom de la personne.
Non.
Mais en gros, c'était un entrepreneur qui a fait une boîte fantastique en consumer goods, qui est très connu, qui était un des très très beaux succès il y a quelques années en France, qu'on va voir pour lui présenter les produits et tout. Donc on fait notre pitch classique et on passe à la phase de démo produit où on met les produits un peu sur la table, on lui montre, on avait prévu même une petite brosse à dents pour qu'il puisse se brosser les dents. Et là, il prend une poignée de pastilles de dentifrice, il la met dans sa bouche, il croque et il avale tout. Et il dit « Ouais, c'est pas très bon votre truc ». Et là, on regarde avec des grands yeux, mais c'est pas du tout comme ça qu'on l'utilise. Et donc, bon, bah, finalement, il a fini par pas investir, malheureusement. Mais c'était, ouais, une anecdote assez, assez marrante qu'on se remémore souvent avec Thomas.
Ah ouais, c'est super drôle. Il a cru que vous étiez une marque de chewing-gum ou de petites pastilles à la menthe, quoi.
C'est ça. Pastilles de Vichy.
Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui? Pas forcément dans l'entrepreneuriat, ça peut être des artistes, des sportifs, des comédiens.
Ouais, bah, je sais beaucoup. Enfin, moi, je suis très. J'aime quand même beaucoup l'entrepreneuriat. C'est vraiment vers, enfin, ces gens-là que je regarde beaucoup et qui m'inspirent beaucoup. Je pense que la personne qui m'inspire le plus en ce moment, c'est Elon Musk. Bon, il y a plein de problèmes de management dessous, mais je trouve que c'est un mec qui a une vision, une façon d'approcher les problèmes qui est assez, assez incroyable. Et notamment, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est le côté, raisonner un peu en principe premier. Il s'est dit si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'une fusée, c'est à peu près 2% du coût de la fusée finale, du coup il n'y a pas de raison que ça coûte aussi cher de lancer une fusée. On va réussir à trouver des solutions, parce que c'est sûr qu'il y a moyen de, et là où la plupart des gens vont dire une fusée ça coûte n'importe quoi 10 millions, on va essayer de faire une fusée à 9 millions, lui il dit une fusée en fait, les composants ça coûte tant, et donc on va partir de là et on va va monter plutôt que se bencher sur la façon dont tout le monde fait les choses. Et en fait, quand tu prends cet angle de vue, ça te force à repenser radicalement tous les choix, toutes les normes un peu établies. Et je trouve ça assez inspirant pour le coup. Donc, je dirais, ouais, c'est lui la personne qui m'inspire. Et puis après, derrière, j'ai lu un peu toutes les biographies classiques. Steve Jobs, bien sûr, Jeff Bezos, voilà, tous ces gens-là, c'est des gens, bien sûr, qui ont leur face noire, qui ont construit des trucs qui sont pas... qui ont aussi leurs défauts, mais en tout cas, qui ont une vision de dingue et qui ont eu la qualité d'exécution derrière. Et du coup, ce combo vision-exécution, je trouve que c'est hyper, hyper inspirant, ce que j'essaye de développer en tant que fondateur aussi, à ma modeste mesure.
Ouais, je suis totalement d'accord. La dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Le gros conseil que je donnerais, et d'ailleurs qui est un conseil qui est peut-être plus large que juste se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui est très valable pour l'entrepreneuriat, c'est que c'est important de savoir pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, et donc pourquoi est-ce que vous montez cette boîte, pourquoi est-ce que vous choisissez tel job. Et c'est vraiment se poser la question de quels sont vos drivers, vos motivations, quel est le sens de tout ça. Parce qu'une expérience entrepreneuriale, c'est tellement dur que si on ne croit pas profondément à ce qu'on fait, je pense que c'est très facile d'abandonner, de baisser les bras. Et typiquement, moi je suis toujours un petit peu sceptique des gens qui pensent avoir vu une opportunité de gagner de l'argent rapidement et qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour ça. Parce que c'est déjà souvent pas le cas, et surtout dès qu'il y aura un problème ou une difficulté, c'est dur de tenir quand c'est juste l'appât du gain qui motive. Et donc vraiment se dire, bien réfléchir à ça et prendre du temps et se dire pourquoi est-ce que cette boîte existe, qu'est-ce que j'apporte de plus au monde, pourquoi est-ce que ça me fait lever le matin. Moi, ça a vraiment été un changement dans ma qualité de vie qui a été assez incroyable. Je suis passé d'un taf que je trouvais très intéressant et dans lequel je retirais pas mal de satisfaction personnelle en termes d'apprentissage, mais où j'avais du mal à comprendre un peu la finalité, parce que au final j'aidais des boîtes qui vivaient très bien à vivre encore un petit peu mieux. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Il y a des gens qui ont d'autres perceptions sans doute, mais c'était pas ça qui donnait du sens à ce que je faisais, et ce qui faisait que dès qu'il y avait un gros coup de bourre, une nocturne, machin, j'avais tendance à me dire putain, mais qu'est-ce que je fous là? Là où, quand les mêmes coups de bourre arrivent en entrepreneuriat, je suis juste hyper content de le faire parce que j'ai compris la finalité et je sais pourquoi je le fais, et je sais qu'il y a ce truc un peu supérieur au-dessus, quoi, qui me fait, qui me motive.
On passe à la toute dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Et il me semble que tu as déjà parlé d'un livre dans une des dernières questions.
Ouais, le livre dont j'ai parlé, c'est What You Do Is Who You Are. Livre excellent, et je vais t'en parler du coup un petit peu plus. C'est écrit par un des meilleurs venture capitalistes américains, qui est aussi un entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes à succès, et qui essaye de déconstruire comment est-ce que la culture d'une comment est-ce qu'on instaure une culture d'entreprise qui marche vraiment. Et pour faire ça, contrairement à pas mal de business books que tu vas lire, il va pas prendre les exemples de Apple, machin et tout. Il va prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat et rien à voir avec le monde de l'entreprise. Il prend Toussaint Louverture, qui était un esclave qui a mené la seule rébellion d'esclaves qui a permis de prendre le pouvoir au monde, à Haïti. Il prend Gengis Khan, qui a construit le célèbre guerrier mongol qui a construit en fait l'empire le plus grand de l'histoire de l'humanité, qui a eu le plus de personnes dedans de l'histoire de l'humanité. Il prend les samouraïs et leur code d'honneur, et il prend un dernier exemple que j'ai oublié. Il est hyper intéressant, un chef de gang dans une prison américaine, et il montre comment ces gens-là, qui ont tous réussi à créer des cultures hyper fortes, c'est qu'est-ce qui leur a permis de créer ces cultures-là ? Et du coup, comment est-ce que toi, dans ton entreprise, tu peux faire ça ? Et un peu la substantifique moelle de son discours, c'est de dire, une culture d'entreprise, c'est pas un truc qui se décrète, c'est pas des grandes valeurs que tu vas écrire sur tes murs en disant on est bienveillant, on est machin. C'est vraiment dans le quotidien, dans les actes, Enfin voilà, what you do is who you are, c'est ce que tu vas faire au quotidien, d'abord toi en tant que fondateur, mais aussi ce que tu vas tolérer que les personnes fassent dans l'entreprise qui vont créer ta culture. Et c'est aussi qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier au nom de cette culture. C'est-à-dire que voilà, tout le monde peut dire nous on aime le feedback, mais si en fait tu consacres au feedback 30 minutes chaque année, bah en fait non, t'aimes pas le feedback. Tu dis que t'aimes bien le feedback, mais t'aimes pas le feedback. Nous, c'est une de nos valeurs de donner beaucoup de feedback et on dit nous le feedback c'est t'as un point toutes les deux semaines parce qu'on pense que c'est important que les managers donnent du temps pour développer les équipes. Ça peut paraître un peu extrême parce que souvent dans les boîtes, tu as une revue annuelle, mais nous, c'est un des trucs qu'on est prêt à sacrifier. On est prêt à sacrifier du temps productif, entre guillemets, de manager, au nom de ce truc de feedback. Voilà, hyper inspirant. Vraiment, ça se lit. C'est pas un bouquin business chiant parce qu'il y en a beaucoup. C'est un livre où on apprend plein de trucs et surtout très, très inspirant quand on réfléchit à ces sujets de culture pour sa propre boîte.
Ok, ça a l'air super intéressant. Merci pour la reco. Est-ce que tu as un film à me conseiller ?
Un film à te conseiller, un documentaire plutôt, mais je pense que tout le monde devrait voir Seaspiracy,
ouais.
Qui est un documentaire Netflix sur la pêche industrielle et ses ravages, notamment sur les écosystèmes marins en termes de pollution plastique. J'ai appris des trucs que je savais pas, mais que je crois 50% des déchets plastiques qui sont dans l'océan, en fait, c'est des filets de pêche. Et voilà, pas là pour faire la morale et dire il faut arrêter de manger du poisson, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça parce que ça te permet de, au moins connaître un peu les tenants et les aboutissants et à réfléchir à deux fois ou à trouver des substituts plutôt que de faire des sushis tous les vendredis soirs.
Bien sûr, et de constater la réalité, quoi. Donc ça, c'est je pense, très important. Ta musique du moment
La musique du moment, je dirais Happy.
De Pharrell, ok, classique.
Classique, parce que notre devise c'est Happy Change.
Okay.
Et non, ma vraie musique du moment, depuis un moment, enfin moi j'aime beaucoup le rap. Et donc j'ai longtemps, j'écoute beaucoup Bande Organisée. Et voilà.
Je valide aussi.
un peu cagole.
On l'a tous un peu, c'est pas grave. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière.
J'achèterais des boîtes comme Total ou ExxonMobil pour les fermer. sans doute. Non, mais je pense qu'il y a énormément. Plus sérieusement, je pense que c'est pas des blagues la responsabilité sociale des entreprises et je pense vraiment que sans vouloir diaboliser personne et je sais que les gens dans ces entreprises sans doute pensent pas à faire du mal, mais voilà, je pense que la menace principale de l'humanité c'est la dépendance sur les énergies fossiles. Aujourd'hui, ces boîtes-là, elles font énormément de lobby, notamment aux États-Unis, et elles ont un impact très très nocif sur. Enfin, tant que les États-Unis bougent pas sur le changement climatique, je pense qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Enfin, c'est important que l'Europe et la France se positionnent en leader et c'est super qu'on décarbone notre économie, mais en fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan si les gros géants marchent pas. Et donc, je pense que c'est aussi important qu'on se rende compte du rôle néfaste que certaines de ces entreprises jouent parfois et que ce serait bien qu'elles mettent leurs vastes ressources à régler le problème plutôt qu'à essayer de préserver leurs intérêts. Quoi.
C'est clair, le chemin est encore long, je pense. Dernière question, avant de se laisser, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Du coup, je te conseille le fameux Thomas Regard dont je t'ai beaucoup parlé, le Thomas Arnaudot, mon associé aussi, parce que je pense qu'il a... On a des profils très complémentaires et je pense qu'il te racontera pas forcément enfin en tout cas pas les mêmes highlights, etc. Donc je pense que c'est pas mal. Et après Thibaut Lamarck de Castali, je sais pas si
oui.
Tu vois ce que c'est cette
oui, oui.
boîte. C'est la boîte qui fait
très bien.
Des fontaines à eau pour les restaurants et pour les entreprises et qui est un mec assez visionnaire qui a en fait vu ce problème du plastique un peu avant tout le monde. Et qui s'est dit le premier déchet plastique à éliminer, c'est les bouteilles d'eau en plastique. Parce que beaucoup, c'est vraiment absurde d'acheter de l'eau minérale en plastique. Et donc, parcours très, 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 très inspirant.
Ok, super. Bah, merci pour ces recos, Aymeric. Merci pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. J'espère aussi que celles et ceux qui nous ont écoutés pendant cette petite heure ont apprécié l'échange. Et puis, on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Et évidemment, si vous souhaitez changer vos produits dans votre salle de bain, n'hésitez pas. Hein, 900 Care est là.
Exactement. Merci infiniment, François, pour l'invitation. Et c'était vraiment une super discussion.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.